Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, où sont passées les écoles ? La Cerdagne. Cette région pyrénéenne montagneuse que nous traversons tous pendant les vacances d'hiver et d'été pour y pratiquer nos loisirs et respirer un grand bol d'air frais. Cette Cerdagne, traversée par les vents et parsemée de petits villages parfois bien cachés et difficiles d'accès, cette Cerdagne où vit une partie du peuple catalan, cette Cerdagne où l'on travaille, où l'on grandit, où l'on se marie. Aller à l'école en Cerdagne, c'est au quotidien apprendre les choses de la vie dans un cadre naturel exceptionnel, mais pour combien de temps encore ? Comme partout, la montagne, monde rural peu carrossable, souffre de la vivacité de son bassin de vie. Dans ces circonstances, comment garder une école ouverte quand elles sont la plupart du temps en classe unique ? Et pourtant, l'école n'est-elle pas le centre, le cœur du village ? Doit-on accepter qu'il ne soit plus bercé par les cris des enfants à l'heure de la récréation ? Ou doit-on se rendre à la pragmatique évidence du regroupement scolaire si cher à l'État ? Le jeudi 15 novembre 1979, le journal Le Travailleur Catalan publiait une page complète sur la victoire des habitants de Fontpedrouse qui réouvrait une école fermée depuis 1963. L'article titrait « Afin que rien ne meure ». Cette école qui vient d'être fermée à nouveau était pourtant l'œuvre de toute une vie. Une vie d'enseignante, celle de Nadia Fortas, qui a exercé en classe unique plus de 30 ans dans la commune et qui, à quelques encablures de la retraite, se voit forcée de vivre tous les jours au-dessus d'une école désormais déserte.
Je suis arrivée ici en 75 pour des vacances. J'ai découvert le village en y passant des vacances. Et j'ai passé toutes les vacances que j'ai pu et je me suis tombée... J'étais complètement accro du village parce que moi, je découvrais une vie rurale, la vie du village, avec une solidarité qui était à ce moment-là très, très forte. Les gens qui se connaissaient, qui se disaient bonjour. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, plus la montagne. Voilà. Donc, tout ça, c'était un tout. J'ai aussi rencontré mon mari, mais bon, ça, c'est plus tard. Et donc, après, j'ai eu beaucoup de mal à repartir d'ici, quoi. C'est un village de cœur. Voilà. Donc, j'ai connu, voilà, les premiers émois amoureux, voilà. Et la fête du 15 août, la danse sur la place, enfin, ça, c'était pour moi quelque chose de totalement nouveau. Et je m'y suis plus, je me suis retrouvée, j'ai senti que c'était là que je voulais vivre, enfin, pas forcément à Fontpedrouse, mais que j'étais attirée par le rural, quoi, parce que c'était une vie qui m'allait bien. Et là, après, il y a eu un concours de circonstances folles, parce que moi, en 88, j'ai eu mon bac. Donc après, en fait, le concours de recrutement a complètement changé. Il y a eu des moments où il y a eu des recrutements d'hub, il y a eu des recrutements... Bon, moi, je me suis trouvée à la sortie du bac avec un concours où il y avait très, très peu de places. Je l'ai tenté à cette époque-là. J'ai pas pu l'avoir. Donc après, j'ai dit, bon, ben, je voulais travailler avec les enfants, parce que Quand j'étais gamine, bon, comme beaucoup de petites filles, j'étais en adoration devant les enseignants, pas tous, mais c'était quelque chose de très important. C'était un ascenseur social pour moi à l'école. Hein. J'étais à l'école d'application de Perpignan, une école dont d'application, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est les écoles d'application, c'est les écoles qui appliquent, avec des stagiaires UFM, alors c'était pas l'UFM, mais les stagiaires de l'école normale. Moi je croyais, d'ailleurs, je savais pas ce que ça voulait dire, je croyais que c'était une école où on s'appliquait, donc je m'appliquais. J'étais très bonne élève. Donc, j'ai tenté le concours. J'ai abandonné l'idée. J'ai vu que j'y arriverais pas, que c'était pas le bon moment. Par contre, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir parce que j'ai fait des études de scientifique. Je suis partie à Marseille. J'ai eu une maîtrise. Et puis après, ma volonté, c'était de vivre là. Donc, j'étais déjà en couple. Donc, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai passé mon BAFA pour travailler dans les maisons d'enfants, parce que les maisons d'enfants, elles étaient ouvertes, ça fonctionnait à plein pot. Je ne savais même pas qu'il y avait d'ailleurs des... Il y avait des classes dans les maisons d'enfants, et c'était... Ça, c'était des... C'était en association, enfin, c'était... avec des contrats privés, mais avec l'éducation nationale. Ça, je ne savais même pas que ça existait. Donc, moi, je me suis dit, bon, je veux rester là. Première chose, je vais travailler avec des enfants, je renonce plus ou moins à ce concours, mais bon, et puis j'avais quand même un niveau, et je suis allée travailler dans les maisons d'enfants, et j'ai passé le BAFA d'abord, sinon ils ne nous prenaient pas, alors ça c'était lourd, parce que j'avais déjà, je sais pas, j'avais plus de 20 ans, bon, mais c'était comme ça, je me le suis payé tout, et après je fais des demandes, et après, un jour, on m'a proposé un remplacement d'instit, justement dans les maisons d'enfants, mais je ne savais même pas qu'il y en avait, puisque c'était sous contrat éducation nationale. Et là, je suis partie là-dedans, donc j'ai fait mes premières armes, c'est sur le tas, quoi. J'ai enseigné, pouf, comme ça. Et à partir de là, j'ai fait un petit peu dans une maison d'enfants, après dans une autre. Ça, c'était dans les années 90. Et là, est sorti le nouveau concours. Concours niveau licence, c'était. Alors, moi, je me suis dit, quelqu'un m'en a parlé, je me suis un peu... J'avais complètement abandonné l'idée, j'avais pas trop regardé, parce qu'il y a eu quand même des concours DUG, même. DUG, c'était Bac plus 2, après Bac plus 3, il y a eu plein d'essais, comme ça. Et du coup, je me dis, tiens, je pourrais essayer de le préparer, comme j'étais en poste, tout en travaillant. Je vais tenter le coup, je vais essayer de le présenter en candidat libre, sans être à l'UFM. Et j'ai monté un dossier pour l'oral par rapport à ce que je faisais dans ces maisons d'enfants à caractère sanitaire. Et c'était difficile, hein, parce que c'était des enfants asthmatiques, mais avec surtout des troubles du comportement plus qu'asthmatiques. Mais enfin bon, soit. Et là, je le passe, et je passe quand même le cap de l'écrit. Alors quoi, je me suis sentie pas loin, quoi. Et j'ai passé l'oral et j'étais pas très loin. Et je me suis dit, ben, l'année d'après, je vais recommencer. Et je l'ai eu. Et là, l'année où je sors de l'UFM, donc du coup, j'ai fait qu'un an d'UFM. Et l'année où je sors, donc j'habitais à côté, et ce poste qui était occupé par un enseignant a été libéré un petit peu à l'arrache. Et là, à ce moment-là, ce qui n'existerait plus maintenant, il y avait une flexibilité, il y avait une... L'éducation nationale, sachant qu'il y avait cette enseignante-là qui sortait de la formation, qui habitait sur le village, sachant aussi que ce poste était quand même un poste réputé difficile et dont personne ne voulait, m'a contactée, me l'a proposé. Donc, je suis partie comme ça sur le poste. Et ça, c'était en 94. Donc, je suis sortie de ma formation en 93. Et je suis partie sur un des postes, c'est le poste le plus difficile, hein, classe unique avec tous les niveaux, ouais. Maternelle, et même maintenant, là, quand je suis partie, maternelle dès 3 ans. Parce que là, c'était maternelle à partir de 5 ans, mais là, quand j'étais, c'était 3 ans. Donc, au début, ça s'est très bien passé, j'avais une vingtaine de gamins, je venais d'avoir mon fils, ça a été très compliqué, pas facile, mais c'était un métier passion. On avait un inspecteur d'académie bienveillant. En juillet, il y a eu à l'école d'Angoustrine, ils voulaient fêter les 10 ans de l'école bilingue. Parce que là-haut, pour sauver des écoles en rural, il y a eu une solution, c'était le catalan. Voilà, c'était un piège, mais bon. Et donc, ça faisait 10 ans, ils ont voulu faire une grande fête. Du coup, tous les artisans qui ont participé à cette mise en place ont été invités. Et le monsieur Fieux, c'était donc l'inspecteur d'académie de l'époque, a participé à tout ça, a été invité, mais il n'a pas pu y aller. Et cet inspecteur, il avait à cœur de maintenir l'école rurale ouverte, de faire tout ce qui était possible pour... il connaissait le maire de l'époque, qui était Arlette Bigorre, et qui était dans l'éducation nationale, qui était proviseur, qui a donc remplacé Jean-Louis Martinez. Et là, dans ce courrier, bon, il parle de toute cette mise en place et tout. Et puis, à un moment, il dit... C'est un courrier très engagé, et il dit « Dites aux autorités de tout acabit que je perçois comme criminelle la fermeture de l'école de Font-Pédrosa. » Dans l'année 2020, ça a été l'alerte. C'est-à-dire que là, on est convoqué à l'inspection académique, le maire, un adjoint, on est convoqué, et on vous dit, bon, il va falloir réfléchir à un rapprochement avec Olette, c'est-à-dire l'école qui a 10 km, qui elle aussi est menacée, qui avait 3 classes et qui n'en a plus que 2. Et on vous dit ça. Donc ça s'appelle une alerte. Ça veut dire que l'année d'après... Parce que il y avait des textes qui nous protégeaient. Moi, je les connaissais, les textes, parce que j'ai passé du temps à faire les textes. Et l'inspecteur savait que je les connaissais, savait aussi que j'étais élue. Donc, tout ça, c'est un tout. Et donc, il savait très bien qu'il ne pouvait pas fermer l'école comme ça, de but en blanc, qu'il fallait... Il y avait une démarche, hein, parce que ce n'est pas une fermeture de classe. Ça, oui, on peut le faire facilement, mais fermeture d'école, ce n'est pas possible. Voilà. Donc du coup, il y a eu cette alerte. Donc, Madame le maire y est allée, a essayé de dire... il savait qu'elle était réticente, elle était de l'éducation nationale, il savait qu'elle était réticente, mais il sentait bien aussi, et elle avait sûrement dit que c'était son dernier mandat. Donc, il fallait attendre. À côté de ça, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la classe unique, c'est une pédagogie particulière. C'est, ça n'a rien à voir avec les autres écoles, vous imaginez bien. Avec un enseignant qui suit les enfants, qui les voit, qui les suit, qui sait leurs failles, qui va essayer de... Vous imaginez un peu, qui fait tout, je suis assistante sociale, infirmière, qui suit... Alors, c'est une école de proximité, où l'on connaît bien les familles, où l'on connaît les problèmes, ou les drames, parce qu'il y en a eu. Enfin, c'est une école, voilà... Et où tout ça est pris en compte, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas anonyme, c'est pas un numéro, c'est pas... Non, c'est une école vraiment... Hein. Et en plus, avec les années, tout s'est complexifié, parce qu'évidemment, la tâche du directeur s'est complexifiée, le numérique est rentré, l'ordinateur est rentré, et tout ça, c'est toi qui t'auto-formes. L'inspecteur, je lui dis, mais moi j'aimerais de la formation, mais cela, non, non. Et mais attendez, Madame Fortas, moi aussi je suis en auto-formation, et vous aussi. Et voilà. Et vous vous rendez compte un peu, là. Et puis moi, je suis pas jeunette, hein. Bon, voilà. Mais j'ai tout donné. Ah, j'ai tout donné, hein. Et je me suis pliée à tout. Et j'ai fait en sorte qu'on n'ait jamais de problème, qu'on suive toutes les injonctions, même contradictoires, même quand il y a eu le Covid, que c'était n'importe quoi, parce que nous, là, des consignes qui étaient pour la ville, il fallait les appliquer aussi à la campagne. Il y a eu même des fois où il y avait des inondations en ville. Eh bien, on fermait l'école. Ou là, des chutes de neige. Moi, j'étais toujours à mon poste, hein. Là-haut, quand maintenant les enseignants ils prennent leur voiture, ben, des fois ils n'y vont pas. Quand la route n'est pas déneigée, ils n'y vont pas, il n'y a pas école. Ben, ici, on m'a fait fermer l'école, alors que je pouvais faire école. Hein. Je descendais l'escalier, les enfants venaient à pied, mais on résistait. On résistait, on disait, bon, ben voilà. Et c'est une pédagogie différente avec de l'entraide, de la solidarité entre les élèves, de l'entraide, des suivis personnalisés, des aides personnalisées. On n'a pas attendu, vous comprenez bien. Et des moyens, parce que j'avais les moyens de fonctionner, vraiment. Et donc, ça, c'était chouette. Et vous voyez, premier enseignant resté 5 ans, le deuxième un an, 2 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans, et moi, 27 ans. Les enfants, ici, ils allaient à la cantine. Il y avait une cantine, c'était au café, maintenant qui vient de réouvrir il y a un an. Ça redonne en plus. C'est terrible parce que ce café, il était. Donc, il y avait une cantine à Fompé. Et ce café, il a été fermé 5 ans. Et c'était la cantine. On pouvait proposer une cantine aux élèves. Et du coup, ça a été fermé. Alors, plus de cantine, donc on faisait amener les repas et on avait mis en place un système dans une salle où les enfants mangeaient quand même sur place. Et on avait même eu du périscolaire. Hein. Mais moi, j'ai eu pendant des années les moyens de lutter tant bien que mal. C'était compliqué, hein, mais... Et puis, il y avait des gens bienveillants. Monsieur Fieux, cet inspecteur d'académie, qui disait, bon, ok, on attend que vous ayez des familles. Tant pis, vous êtes à 5 élèves. Mais si vous nous dites qu'il va en arriver d'autres, on vous croit, vous avez des HLM. Il y a une volonté politique vraiment actée de maintenir ce village en vie. Et donc, voilà. Et là, oui, Monique, elle était de ce combat parce que, si vous voulez, Monique a toujours été une combattante. Et quelque part, alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais on parle d'elle, alors on dit une enseignante de Cerdagne, Monique. Et c'est elle. Moi, je pense qu'elle est venue manifester quand la route a été barrée, parce que bon, c'était quand même assez musclé. Et c'est pour ça qu'ils ont cédé, hein. De toute façon, s'ils ne seraient pas cédés. Hein. Sur place. Moi, j'avais une vie publique, totalement personnelle, parce que voilà, moi, les devoirs, les gamins, ils venaient sonner, t'as oublié ton livre, t'as oublié ton cahier, le samedi, le dimanche, mercredi, j'ouvre. Voilà. Alors, à la fin, je lui disais, hé, attention, l'an prochain, tu sais que tu pourras plus le faire, ça, il faut que tu te forces à... Ça a été dur, je leur ai dit, préparez-vous quand même. Hein. Bon, après, ce qui est bien, c'est un moindre mal, c'est que l'école d'Olette, c'est une classe, c'est deux classes, hein, donc évidemment, forcément, multiniveau, petite section moyenne, section grande, section CP, avec des nanas, des filles, je les connais, qui sont vraiment, ça fait quelques années qu'elles y sont, elles sont assez impliquées, même si elles ne sont pas sur place, parce que sur place, il n'y en a plus des sur place, hein, parce que c'est trop, trop dur, mais elles sont quand même bien investies. Par contre, elles ont dit au maire sûrement, ou le jour où c'est classe unique, bye bye, hein, on ne reste pas. Hein. C'est un poste très ingrat. Moi, je lui avais dit, l'inspecteur, c'est très ingrat parce que la reconnaissance, alors, elle est plus en tout cas chez les enfants et dans les futurs, les adultes que j'ai pu revoir, qui sont venus me voir, que chez les parents. Hein. Parce que les parents, eux, en fait, tout était normal. Plus on en donnait et plus c'était normal. Alors, après, les nouveaux, ils se rendaient bien compte de la chance qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre en bas, à la ville, parce qu'ils venaient souvent de Perpignan. Je disais, putain, on n'avait jamais vu ça, une instit qui reçoit n'importe quelle heure, qui vous dit, vous voulez un rendez-vous, bon, ben, quand c'est que ça vous va, ça peut être un samedi, un dimanche, bon, vous voyez un peu le truc, quoi. Ils s'en rendaient compte, hein. Bon, après, il faut vivre à Fonpedrouze, hein. C'est pas évident, il y a des gens qui ont essayé, puis qui s'y sont pas plu, puis il faut trouver du boulot, bon, il y en a qui venaient sans boulot. Maintenant, il y a des gens, hein, qui travaillent à Perpignan, qui travaillent, qui font des kilomètres, et puis alors, attendez, je vais vous dire un truc aussi. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est que maintenant, on a en concurrence la petite école privée rurale qui est en train de s'implanter. Il y en a une à Corneilla. Il y en a une à Ure qui était une classe unique. Et la classe unique, du coup, le maire, bon, qui a eu mal au cœur à devoir partir de la classe unique, il a donné les locaux, je ne sais même pas s'il les loue ou s'il les donne, enfin, il doit les louer à pas cher, à une école privée. Et ça, la petite école privée, classe unique, hein, avec des méthodes exactement les mêmes que les miennes, hein, Montessori, des pédagogies de solidarité, exactement comme de coopération, exactement comme ce que je menais là, mais privé, où il faut payer 12 mois de l'année, 250 ou 300 euros par mois, eh bien, elle est en train de naître. Alors, vous voyez, Corneilla, c'est un regroupement pédagogique. Ils viennent de se mettre en place une école, ça fait 3 ans. Je crois qu'ils ont ouvert une deuxième classe. Elle met en péril l'école publique, puisqu'alors là, on a Corneilla, Villefranche et Cerdignan. Parce que Cerdignan, le maire, il avait une trouille terrible. Lui aussi s'est trouvé menacé de fermeture pendant très longtemps. Et là, il a un petit peu devancé la fermeture qu'on lui faisait miroiter. Du coup, il a préféré faire un RPI. Alors, du coup, ils ont accepté de faire un RPI. dont les enfants circulent. Alors, il y a le CM à Serdinia, la maternelle à Villefranche, le CE et le CP à Corneilla. Les gamins, ils prennent le bus, ils viennent manger le... Ils reprennent le bus le midi parce qu'ils mangent à Serdinia, donc ils prennent des risques de 4 fois dans la journée, hein, voilà, sur des routes pas faciles. Par contre, les transporteurs se frottent les mains parce qu'ils savent que là, ils ont dit, ah, ça, c'est bon ça. Hein. Et alors là, c'est une école privée, donc qui alors là, pour le coup, il y a des gamins, moi je connais par exemple quelqu'un qui habite à Mossette Corneilla, pour scolariser son gamin. Et vous, vous vous dites, moi, j'ai la même chose là, en public, bah, il n'y en aura plus.
Monique Guerrero, ancienne enseignante en Cerdagne, directrice de l'école Louis-Claire à Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, témoin actif de la réouverture de la classe unique de Fontpédrouse en 1979, s'exprime sur la fermeture de l'école de Fontpédrouse par le nouveau conseil municipal. Pour elle, la parade serait de créer de l'activité, d'œuvrer pour l'attractivité du village, de faire venir des jeunes couples car la présence ou l'absence d'une école est un facteur déterminant pour l'installation des familles.
Monique Guerrero, je suis enseignante à la retraite. Donc, j'ai enseigné principalement en Cerdagne, à Villeneuve-les-Escaldes, et une vingtaine d'années dans la même école. Et ensuite, je me suis spécialisée dans l'enseignement pour les enfants en difficulté. Je suis en Cerdagne depuis le début de ma carrière, et maintenant à la retraite, bien sûr. J'avais été plus ou moins appelée par le maire de l'époque qui m'avait dit « Tu pourrais nous faire part de ton expérience » puisque moi j'étais en classe unique à ce moment-là et venir parce qu'on compte réouvrir l'école de Fontpédrouse qui était fermée depuis 1963. Voilà, donc je suis allée à la rencontre des personnes qui entouraient le maire. Hein, il n'était pas tout seul. Il y avait bien sûr son conseil municipal mais aussi des parents d'élèves volontaires pour mettre leurs enfants à l'école. Voilà, donc il a réussi en 1980, je crois, oui, c'est ça. La réouverture de l'école, ça a été un vrai événement parce qu'on sait que ces écoles qui ont été fermées au cours des années 50-60 n'ont quasiment jamais réouvert, quoi. Donc c'était l'événement dans la vallée, oui. Et alors il y a eu une occupation des locaux, il y a eu une école plus ou moins faite par les parents et puis les volontaires qui se prêtaient à ça jusqu'à septembre. Il me semble me souvenir que c'est jusqu'aux vacances de Toussaint pour faire pression et pour que l'école réouvre. Oui, oui. Depuis l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, les choses ont changé au niveau des façons de faire, des façons de fonctionner. Donc depuis 2017, aucune suppression de poste ne se fait en milieu rural sans l'avis du maire. Il faut savoir que précédemment, c'était l'inspection académique qui décidait les suppressions. Là, évidemment, c'est elle qui propose et c'est le maire qui prend la décision, enfin, aidé de son conseil municipal. Voilà, donc là, c'est paradoxal parce que c'est une façon de faire à laquelle on n'était pas habitué. Et puis voilà, surtout, ça laisse la responsabilité intégrale à la commune de cette fermeture. Et ça, c'est terrible pour la commune, mais bon, c'est lourd de responsabilité pour eux quand même. D'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Ça, c'est une réalité, mais normalement, dans les communes, je vous dis ça parce que j'ai été aussi adjointe au maire, on anticipe ce genre de choses. On sait très bien, on veille à la courbe de naissance et on sait très bien qu'à des moments, il y a des creux. Donc on anticipe. Alors, comme moyen, on a créé des HLM, par exemple, pour créer des petits logements, voilà, créer de l'activité ou solliciter des personnes pour qu'elles créent de l'activité. Mais bon, visiblement, ça n'a pas été la préoccupation de la commune de Fontpédrouse, alors que ça l'était précédemment. On est passé du tout à rien du tout. Voilà. Il y a tout un concours de circonstances qui fait. Et en particulier, il y a des modifications avec l'arrivée des communautés de communes, qui a fait que des tas de choses se sont regroupées dans des bourbeaux plus grands. Et on est parti sur cette lancée sans se rendre compte peut-être qu'il y avait beaucoup de déchets, qu'on laissait beaucoup de déchets. Quoi. Et Fontpédrouse en est un. Je pense que c'est ça. C'est cette volonté d'aller toujours de concentrer vers plus gros. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est un phénomène récurrent, parce qu'il y a eu d'autres groupements comme ça, ou regroupements. Je pense en particulier à Font-Romeu. Font-Romeu, Odeillo-Vivien, qui est la même commune, avait deux écoles. Une école à Odeillo avec 4 classes, si mes souvenirs sont bons, et une école à Font-Romeu avec 8 classes, maternelle et primaire. Ils ont créé une structure nouvelle, donc la commune a vraiment dépensé beaucoup d'argent, ils ont créé une structure nouvelle, et depuis, ils ont regroupé les deux écoles, et depuis, il y a eu 6 suppressions de postes. Et souvent, ça se passe comme ça. Alors, dans les années plus ou moins 70, on faisait des regroupements pédagogiques. Il y avait un peu moins de déchets. Parce que, bon, on essayait de garder les écoles in situ, et c'était les enseignants qui faisaient un travail plus ou moins en réseau. Mais là, avec cette façon de faire, voilà, il n'y a plus beaucoup de chances pour que l'école reste, quoi. Dès les années 75, bon, l'Europe avait dit qu'il fallait que... Nous, on a un modèle quand même particulier, la France. Déjà, on a 36 000 communes, ce qui n'est pas courant. Mais en plus, il y a ce modèle des services publics. Et bon, c'était vraiment affiché comme intention de diminuer les services publics. Et ils y arrivent petit à petit. Ils mettent le temps, mais ils y arrivent. Bon, les postes ont disparu des villages, par exemple, les écoles, bon... Et des tas d'autres services comme ça qui disparaissent. Mais bon, c'est la mort de la ruralité. Et puis, est-ce que c'est pour un mieux-être? Parce qu'il y en a qui affichent que c'est pour un mieux-être. Qu'à partir du moment où les enfants sont regroupés, où on a des structures toutes neuves, ils sont dans la modernité, ils vont pouvoir apprendre. J'ai même entendu comme argument, ils apprendront comme en ville. Mais bon, en ville, on n'a pas... À vouloir ressembler à la ville, quoi. Quand on habite dans un milieu rural, si on choisit le rural, c'est justement souvent parce qu'on est parti de la ville. Voilà, on vend de la résidence secondaire, on déménage le territoire. Moi, j'appelle ça un déménagement du territoire, contrairement à l'objectif affiché d'aménagement du territoire. On le déménage par force. Et voilà, quoi. C'est terrible parce que ces petits villages, dont cette caractéristique qu'on avait, ces 36 000 communes, c'est intéressant parce que la population est quand même mieux répartie. On évite les grands centres. On sait maintenant que les grands centres sont quand même source de beaucoup de problèmes. On sait avec le réchauffement climatique, par exemple, que tout ça, ça s'accélère dans les villes. Mais bon, on n'en tient pas compte. Alors bien sûr, il y en a qui doivent trouver des intérêts là-dedans, quoi, hein, mais la population n'en trouve pas, ça c'est sûr. Alors après, il faut savoir que quand la place est vide ou libre, il y a aussi les écoles privées qui s'implantent. On a eu ce cas à Ure, c'est un village voisin au mien. À Ure, l'école publique a fermé en juin, l'école privée dans les mêmes locaux a ouvert en septembre. Alors là, on est dans quelque chose aussi qui est curieux, c'est-à-dire que de la part de la commune, il y a une sorte de banalisation ou d'indifférence au secteur privé, au secteur public. Alors qu'on sait que quand même l'école publique est gratuite, même si... Elle n'est pas complètement, faut pas se bercer d'illusions. Mais enfin, l'école privée, on paye tous les mois. Et donc cette école, voilà, au nom des pédagogies alternatives qui sont très en vogue en ce moment, voilà, on a créé cette école et les parents paient. Et les parents sont mécontents parfois, donc ils s'en vont, ils cherchent une autre alternative. Il y avait une autre école à Sayagouz, à caractère privé. Donc il y a eu un peu le yo-yo entre les deux écoles. Et puis on revient dans le public quand on n'est pas satisfait. Bon, Mathemal, c'est pareil. On a fermé les angles Formiguère et on a ouvert dans un endroit excentré à Mathemal une grande école. Alors, pas du tout gourmande dans l'énergie, hein, parce que je crois qu'elle est à zéro, voilà, qui est complètement excentrée. Alors, bon, ces villages, ils perdent, du coup, l'école, c'est le cœur du village, c'est comme la mairie. Ils perdent leur cœur en même temps. Donc, ma foi, quand les jeunes couples viennent s'installer, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent où est l'école? Où est la crèche? Où sont les assistantes maternelles? Les centres de loisirs? Et voilà. Et donc après, ben, ma foi, ils choisissent. Et si on rassemble tout dans un gros bourg, et ben, ils iront vers le gros bourg, c'est inévitable. Alors que bon, Mathemal, par exemple, cette école, vraiment, était au cœur du village. Et il y avait de la vie, quoi. Voilà. On enlève la vie. On enlève le cœur, on enlève la vie.
Réunis sur le pôle enfance Cap-Cirgaroche depuis la rentrée 2019, le travail en commun entre l'école primaire, la crèche, le périscolaire et l'extrascolaire permet de définir et de mettre en œuvre des valeurs communes en termes d'éducabilité, bienveillance, respect des besoins, projets communs, dans un souci de cohérence et de continuité. L'école du Cap-Cyr, une des structures du pôle enfance, a été construite de manière éco-responsable. C'est une structure à énergie positive. Elle a été construite avec des matériaux naturels dans le respect de l'environnement. Elle est accessible, les classes ont été aménagées de manière flexible. Mais comment est né ce pôle central? Comment s'est passé le regroupement de plusieurs communes? Et à quel prix a-t-on dû préserver l'école publique? Le maire du village de Matemal, Michel Garcia, livre l'histoire du projet et les secrets de sa réalisation en appuyant sur les intérêts évidents de celle-ci, à commencer par celui des enfants.
Donc il y avait trois écoles, il y avait une école, donc il y avait un regroupement déjà donc intercommunal, hein, un RPI, donc un regroupement pédagogique intercommunal entre Formiguère, où il y avait une école, Les Angles, où il y avait une école, et Matemal. Et comme il avait des travaux à faire sur Formiguère et qu'il fallait carrément refaire une nouvelle école, lors des élections de 2014, d'un commun accord, on s'est dit, plutôt que de refaire une nouvelle école à Matemal, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire un pôle petite enfance qui regrouperait donc les trois écoles du secteur, en sachant qu'aussi il y avait un besoin important en matière de petite enfance et d'une crèche. Et l'autre point important, c'était l'école de Formiguère. Et on s'est mis d'accord et du coup on a dit, bon ben on va lancer un projet d'un pôle petite enfance, voilà, qui va de la crèche jusqu'au CM2, voilà. Donc avec un pôle, essayer d'avoir un pôle central. Alors pourquoi avoir choisi Matemal? Alors Matemal était choisi, donc c'est pas les collègues maires, c'était pas pour me faire plaisir, c'était par rapport au lieu, le lieu qui était stratégique par rapport déjà au stade existant et à la piscine. Il s'est trouvé que la commune de Matemal donc maîtrisait le foncier. Il y avait énormément de foncier disponible tout autour. Donc du coup, on a lancé ce projet, d'abord par un syndicat interscolaire qui regroupait 8 communes du Cap-Cyr. Donc après, on a transféré à la communauté de communes, puisque la communauté de communes a pris la compétence scolaire. Donc du coup, là maintenant, on a un projet d'amélioration justement de la piscine pour faire un bassin, un petit bassin d'éducation couvert, qui serait donc entre la piscine existante aujourd'hui, qui serait du coup un bassin nordique. Le bassin existant, on le laisserait libre, mais avec un aménagement. Et entre le bassin existant et le bâtiment d'accueil, on ferait un bassin donc d'éducation fermé. Au niveau de l'État, l'éducation nationale, eux, c'était 100% favorable. Après, un projet comme ça, bon, on s'est dit, bon, il fallait chercher des subventions. Donc oui, l'État, oui, au travers de la DETR, hein, donc l'aide de l'État qu'accorde aux communes et aux collectivités. Donc ça, on a pu avoir donc une aide, donc de mémoire, je crois que c'est 450 000 euros. Alors la région qui ne finance pas les écoles primaires, puisqu'ils n'ont que la compétence lycée, donc la région a financé ce projet parce que c'était de l'éco-construction et en énergie positive. Au niveau de la région, Occitanie, c'est un très très beau projet qui a été réalisé là. Je veux dire, bon, tout ce qu'ils voient, c'est pas pour... Bien sûr, quand on est sur place, on dit c'est la plus belle école, mais c'est un des plus beaux projets d'école qui ont été réalisés sur la région. Les anciens, on va dire, du village, qui donc avaient toujours connu l'école dans le village, il y en a qui ont eu une réaction, ils ont dit « oui, mais on enlève les écoles des villages ». Et on enlève une vie du village, bon, enfin, bon, il y a eu un peu, quand même, il y a eu une petite réaction, mais pas virulente, quoi. Je veux dire, ça a été à la marge, les gens qui se sont opposés à ce projet, mais bon, franchement, au niveau des associations environnementales, non. Donc voilà, plutôt quelques personnes qui ont dit oui, mais on va enlever les écoles du village. Mais majoritairement, au niveau des enseignants, localement, les enseignants, ils ont été tous favorables, tous, puisqu'il y a 8 classes, donc il y avait il y a 8 classes en tout, donc qui étaient réparties sur les 3 villages, les Angles, Formiguère, Mathemal. Et les enseignants ont été donc tous d'accord pour réaliser ce projet commun, en sachant que bien sûr, il y en a qui habitaient Formiguère, bon, mais ils sont venus Mathemal, bon. De toute façon, tout le monde a dû se déplacer. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que le déplacement se fait le matin et le soir. Les enfants mangent sur place. Du coup, entre midi, 2h et 14h, il n'y a pas besoin d'emmener les enfants ailleurs pour manger, quoi. On a un projet, on va dire, identique sur le Conflans. Hein. L'autre partie, dans le Conflans, si vous connaissez un peu, c'est sur le côté de la Cabanas. Il y a un projet donc là aussi, mais là, c'est moins unanime parce que Saint-Pierre a une école toute récente, Saint-Pierre d'Elfourcade. Bon, il y a une école qui est à Bolker qui et pas non plus complète, même si c'est une école unique. Et Font-Romeu, il y a aussi, au moins 7 ou 8 ans déjà, qu'il y a une école toute neuve aussi. Disons que nous, on a dit, nous, ça marche. Parce que quand même, avec l'éducation nationale, si même il n'y avait pas d'apport financier, il y avait quand même, on va dire, un pacte oral, qui était de maintenir les postes aussi, dans les enseignants, parce que tout le monde a dit vous allez regrouper, et donc du coup en regroupant, on va perdre des postes. Et en fait, on n'en a perdu aucun. Alors moi, je touche du bois, bien sûr, parce que ça reste oral, et les directeurs donc d'académie se sont succédés, mais n'ont jamais pu, et bien on vous l'écrira pas. On fera en sorte de maintenir tant qu'on pourra, même si on n'est pas au niveau des effectifs du ratio national, même si vous avez des effectifs de moyenne de 15, on vous maintient les 8 postes. Et c'est vrai que depuis qu'on a ouvert, on n'a eu aucune suppression de postes. Bon, voilà, après, j'ai pas dit que... Mais bon, tant qu'on reste avec l'effectif, on a un effectif constant de 135 élèves, à peu près. Donc, divisé par 8, ça fait donc ça, juste. Mais bon, on doit être à un ratio de 15 à peu près par classe, il me semble, oui. Oui, c'est ça. Après, bon, on a aussi mis en avant que, au niveau de la loi Montagne, donc, on avait aussi obtenu avec, grâce à l'association des élus de la Montagne, là, association nationale qui s'appelle l'ANEM, on avait obtenu que la notion de seuil ne figure pas pour les écoles de montagne. Alors aujourd'hui, c'est du développement économique qu'on essaye de faire au travers des ressources, on va dire, locales. Donc ça peut être avec le bois. On réfléchit sur l'implantation d'une scierie industrielle qui pourrait fixer quand même 12 familles. Et ça, oui, en plus, bon, le du bois, hein, on est en plein cœur d'un patrimoine forestier important sur le territoire, et c'est aujourd'hui, ça serait un projet, en fait, le porteur de projet, on l'a, reste à pouvoir réaliser le projet, quoi. Donc voilà, essayer de recréer, sous une autre forme, dans le bien-être, la santé, voir si on peut réexploiter des centres, un centre comme les Escales, essayer de voir si on peut pas refaire un centre de remise en forme, avec un peu de balnéo, en plus il y a des eaux sulfureuses sur le localement, voilà, voir si. D'ailleurs, il y a un porteur de projet, il y a eu une rencontre avec la région là-dessus.
Mais qu'est-ce qu'on rigole? Je vais apprendre à lire et à écrire. mes chaussures.
Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures.
Maman, j'ai rien oublié.
Ton bonnet.
Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures, je prends mon bonnet.
Maman, j'ai rien oublié.
Ton manteau.
Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures, je prends mon bonnet. Je prends mon manteau.
Maman, j'ai rien oublié.
Non, dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, 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 allez.
Vite, vite, oh vite, 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 vite. Maman, vite, 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 à l'école, vite.
Sur le projet Mathemal, projet d'un pôle scolaire qui s'appelle Capcir Garoche, d'ailleurs, il y en a qui ont dit, c'est pas l'école de Mathemal. Non, je dis, elle est sur Mathemal, mais elle n'est pas qu'à Mathemal. Et donc, c'est le Capcir Garoche, puisque les Garoches, c'est les communes de Rayeux, Sansa, Gatébia, puisque il y a des enfants aussi, enfin, pas beaucoup, mais il y en a deux ou trois, je crois, qui viennent aussi de ces communes. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une unanimité au niveau des élus, un accord unanime là-dessus pour faire ce projet, les enseignants aussi, et du coup, l'ensemble des parents d'élèves, à quelques exceptions près, étaient aussi favorables. Je veux dire, il a fallu quand même une bonne dynamique favorable pour faire ce projet. Ça, c'est sûr que ça a été quand même important, parce qu'il suffit qu'il y ait un maire contre et ça peut poser un problème, quoi. C'est un travail collectif qui a démarré en 2014 et aujourd'hui, c'est vrai que sur la communauté de communes, il y a cet esprit de travailler collectif, voilà, bon, même si des fois c'est un peu compliqué avec Font-Romeu, mais bon, parce que, voilà, Font-Romeu est quand même un pôle important de population et Font-Romeu reste Font-Romeu, quoi. Mais bon, les enfants, donc, après, quand ils passent en sixième, de toute façon, ils vont au collège à Font-Romeu tous. C'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est primaire et petite enfance, c'est vrai qu'on a vraiment une exemplarité. Je veux dire, on peut la mettre en avant et en faire la promotion, je sais pas si on peut appeler ça promotion, mais dire voilà ce qui a été réalisé dans une zone rurale de montagne. Et franchement, voilà, comme quoi, quand les élus portent un projet ensemble, on peut arriver à passer une volonté. Bien sûr, la commune de Mathemal, le terrain, on l'a cédé gratuitement. Il n'y a même pas eu de... C'était pour les enfants. Hein, donc, je veux dire, parce que là, l'emprise, ça doit être au moins 2 hectares, si ce n'est pas plus. Donc, je veux dire, mais il n'était pas question de faire à payer les autres collectivités, quoi. C'est un beau cadeau nécessaire. Je veux dire, comme on dit, nous, les enfants, c'est l'avenir. Hein. Même s'il y en a qui disent que les enfants, ça ne rapporte rien. Mais bon, enfin, ça, c'est un raccourci financier. Mais après, les enfants, c'est l'avenir, quoi. Les enfants, c'est l'avenir. Et si on fait un beau projet... Alors, franchement, là, aujourd'hui, je pense que personne ne remettrait en cause ce projet, finalement. Aujourd'hui, il y a vraiment une adhésion et je crois que ceux qui viennent d'ailleurs, comme vous dites, les nouvelles familles qui se fixent ici, qui viennent donc des villes en général, quand ils ont connu leurs écoles, que ce soit primaire ou maternelle, en ville, et quand ils voient l'école ici, au milieu de la forêt, ça fait partie presque du rêve, quoi.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.